Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de Radio G. C'est la team imaginaire.
Bonsoir.
Sur le 100.5 jusqu'à 22h.
Tout à fait.
Avec donc Karine qui va nous parler du salon.
Oui.
Imaginaire. Pour toi, c'est un peu évident, mais peut-être pas pour les auditeurs.
Les 18 et 19 mai, donc ce week-end, préparez-vous, on a un programme de fou.
Donc tu vas nous détailler ça dans quelques minutes. Sébastien, toujours dans les livres dont vous êtes le héros des années 80, hein, je vois là.
Ouais, tout à fait. C'est pour reparler d'un one-shot d'un auteur, Graham Davis, dans la collection des Défis Fantastiques. Et ça s'intitule « Les rôdeurs de la nuit ». Et il y aura aussi quelques petites surprises, mais je n'en dis pas plus.
D'accord. En deuxième partie d'émission, on écoutera l'interview des gens qu'on a rencontrés à l'inauguration de l'expo « Le Royaume sous la montagne » à Troglodyte et Sarcophage, donc à Douai-la-Fontaine, il y a 2 semaines. On en revenait tout juste et voilà, l'interview est montée. Et on commence tout de suite en musique avec un morceau qui avait été enregistré dans ce studio même il y a 1 an. Car il y a 1 an, c'était déjà... Juste avant le salon imaginaire, je pense.
Oui.
Parce qu'on avait invité les Blears, groupe de pop angevin qui
a sorti son album.
Depuis, voilà. Et là, ils nous avaient joué un morceau qu'on a retrouvé sur leur album qui est sorti au mois de novembre dernier. Et c'était le morceau Freedom.
So much she denies the truth, and she's too sure of herself about me. Too many lies, and nobody wants to touch me. She's a bleeder, señor. She thinks she understands me. That is not the truth. That is not the truth. She has an image of me. A liar. She was just pretty and really smart, but I didn't see it coming. She had too many doubts about me. While I'm a kill for some, I just wanna say fuck you, don't say it. With you I won't become someone. That's you, that is it, that's you. She has an image of me. I run for her, run for her, and I will burn. She wants her freedom, dum 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 da da da. She wants her freedom, dum 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 da da da. She wants her freedom, dum 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 da da da. She wants her freedom, dum 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 da da da. She wants her freedom, dum dum da da da. She wants her freedom, dum 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 da da da. She wants her freedom, dum 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 da da da. She wants her freedom, dum 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 da da da.
C'était les Bleers, donc ici même, il y a un an, ils étaient venus à deux.
Ah, un beau souvenir.
Tout à fait.
Ouais.
C'est vrai.
Je pense que c'est la seule fois qu'on nous a enregistré une chanson dans cette émission, donc je me suis dit, ah, c'est vraiment le moment de la repasser.
Oui, c'était très bien, justement.
Bon, pas d'animation musicale cette année au Salon Imaginaire.
Enfin,
pas de groupe de rock, en tout cas.
Mais par contre, on a des invités du tonnerre, puisqu'on a même un auteur autrichien. Mais avant de vous parler de cet auteur autrichien, j'aimerais quand même pointer que là, cette année, c'est l'occasion de remettre le prix Ayerdal à Jean-Claude Duniac. Mmh. Et puis, rappeler aussi que Boris Beuzelin, qui nous a fait notre belle affiche, sera présent.
Tout à fait, j'espère que vous l'avez vu en ville.
Voilà.
Mmh. Ah ben, sur nos réseaux.
Sur la communication, ça s'est très bien passé. Sur la ville, en tout cas. Et donc, on va avoir un panel d'auteurs locaux également, à peu près la moitié de notre programmation.
D'accord.
Et des auteurs un peu de partout aussi, de toute la France. Parce que c'est une volonté aussi de l'association de valoriser à la fois des acteurs locaux.
Il y a aussi un auteur chilien, enfin, il est peut-être français maintenant, Gilberto Villarroel, non ?
On connaît bien, oui.
Oui, enfin, il est parisien, quoi. Il est chilien, oui, c'est sûr. Mais il habite à Paris depuis quelques temps.
Hein. C'est un des auteurs connus qu'on a au salon.
On a aussi une illustratrice ukrainienne. Mais enfin, bon, on t'écoute, Karine, nous raconter tout ça.
Donc, parmi ces auteurs et autrices, nous aurons Delphine Bilien, qui nous vient d'Angers, Kamel Benahouda, il y a aussi Roxane Dambre qui sera présent. Présente, pardon. Et Toukoutouk et Patrice Véry, notre chère Patrice Véry, il ne faut pas l'oublier. Et par la suite, on va avoir une programmation très très complète cette année avec 4 tables rondes. En commençant une table ronde qui clôture le cycle de conférences universitaires qu'on avait démarré au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Donc là, ce sera l'occasion d'évoquer l'IA par l'approche éthique et juridique. Donc avec Ronald Bousseau, Lionel Davoust et Caroline Juguet, qui est une juriste. Puis à 14h...
Alors attends, et les autres, Ronald Bousseau, donc illustrateur.
Oui, et Lionel Davoust, auteur.
Et Ronald, qu'on écoutera tout à l'heure dans l'interview, parce que c'est aussi lui qui a dessiné l'expo Le Royaume sous la montagne, à troglodyte et sarcophage. Voilà.
Puis à 14h, nous aurons une table ronde sur l'art en littérature de l'imaginaire avec Frédéric Dupuis, Morgane Stankiewicz...
Il va falloir que tu apprennes à dire son nom. Parce que c'est toi qui fais la table ronde
en plus.
Je vais lui demander.
Ouais.
Pour bien prononcer, je m'entraînerai. Donc, on aura également Floriane Soulas. Donc, deux autrices et un éditeur animé par moi-même. Celle de l'IA étant animée par Pierre-Marie. Puis, de 14h à 16h, à la médiathèque Toussaint, on a un atelier d'écriture animé par le Bombix Mori Collectif. C'est sur inscription. Il faut nous contacter.
Nous qui ? Ah, c'est Imaginaire qui gère les inscriptions, pas la médiathèque. Ok.
contact@imaginaire.fr.
Donc,
c'est facile.
Bombix Mori Collectif, dont on a écouté l'interview il y a quelques émissions. Là. Vous pouvez retrouver ça sur la page podcast.
Tout à fait, un petit collectif d'auteurs lyonnais.
Ils viennent à combien là cette fois ?
À l'origine, et ils viennent à deux.
Bon, c'est bien déjà.
Mais ils sont fantastiques. Enfin, moi, je les adore.
Il n'y a pas de thème pour cet atelier d'écriture ?
Et non, ça va être la surprise pour les participants et les participantes.
All right.
En plus, c'est ouvert à tous les âges, j'imagine.
Alors ça va être plutôt, je pense, ado-adulte. Hein.
D'accord.
Plutôt que pure jeunesse. Après, il faut voir, parce qu'on n'a pas de tranche d'âge. Donc a priori, c'est tout public.
Oui, c'est gratos.
C'est gratuit, complètement gratuit. Il faut juste s'inscrire. Et puis à 15h, il y aura une table ronde du livre à la mise en scène, première table ronde de Valentin, avec... David Coulon, Samuel Delage et
David,
Gilbert.
Auteur de thriller, mais aussi metteur en scène.
Tous les trois, en fait, ont un lien avec soit le cinéma, soit le théâtre. En tout cas, la mise en scène.
Et la télévision, on en t'a dit, il y aura Samuel Delage.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'il écrit aussi pour la
télé. Il a un projet
télé.
De long court-métrage. Ouais. Donc, justement, ce sera l'occasion sans doute d'en parler. Mmh. Puis, à 16h, on a une table ronde sur la dimension artistique existe-t-elle indépendamment de son lecteur et de sa lectrice, avec Michel Astrud, Pierre Léauté et Eva Martin, animé par Alan Dugy-Pirou.
Donc Alain,
collègue
qu'on
de l'Observatoire
pour,
de l'Imaginaire.
Et aussi...
et fondateur de Fantastinet.
Voilà. Qui fait souvent des interviews pendant notre salon, d'ailleurs.
Et oui. Et ça va se reproduire, d'ailleurs. Donc, à 17h, on aura bien entendu la rencontre avec Jean-Claude Duniac, animé par Romuald.
Puis, donc, Jean-Claude, écrivain, mais aussi quelqu'un qui a été important dans l'édition de la science-fiction en France.
Ah ben, tout à fait.
Et aussi quelqu'un qui a chapeauté le collectif Cocyclix.
Alors ça, je ne sais pas, mais peut-être oui.
Qui est, on va dire, un groupe d'entraide à l'écriture sur le net, dont sont extraits pas mal de... Enfin, dont, voilà, Lamar, des grenouilles. Roxane Dant, par exemple, a passé du temps sur Cocyclix. Voilà.
Puis à 18h, nous finirons la journée avec la remise du prix à Heyerdahl à ce fameux Jean-Claude Duniac. On est très, très, très fiers de pouvoir lui remettre ce prix. Et le dimanche, toute la matinée, ça va être des coups de cœur caféinés des illustrateurs et illustratrices, donc des dialogues de 30 minutes entre illustrateurs, illustratrices et auteurs-autrices autour des nouvelles de l'anthologie Texte de l'art. Et on vous garde une petite surprise sur les intervenants de ces différents échanges.
L'anthologie, on peut en parler un petit peu tout de suite?
Oui, on peut
parce
en parler,
sort,
justement.
Ce week-end, on va dire.
Tout à fait, elle sera disponible au salon ce week-end. Donc, ça a été pensé, en fait, comme organisé sur 4 grands thèmes. Donc, au-delà du voile, l'absence de l'être aimé, les images de la mort et la transformation qui découlent des poèmes de Morgane, dont je vais pas écorcher le nom une deuxième fois, hein, on va éviter. Fondatrice des éditions Nord d'Absinthe, qui malheureusement ont fermé leurs portes. Mais malgré tout, justement, on a voulu lui faire honneur un petit peu, puisque chacune de ces 19 nouvelles qui composent l'anthologie, je vais y arriver, traite des arts, qu'ils soient musicaux, pictoraux, littéraires ou futuristes. Et c'est un bel hommage sur les poèmes fantastiques de Morgane.
Il y a pas mal de gens qui sont à l'affiche de cette anthologie qui seront à notre salon. Donc, tout si vous l'achetez, vous pourrez avoir pas mal de dédicaces. Hein. Et les illustrateurs,
on aura la quasi-totalité des auteurs et des autrices qui vont être présents. Et la quasi-totalité des illustrateurs et illustratrices qui vont être également présents.
Et la couverture de ce livre, donc, c'est le dessin de Boris Bleuzin qui fait aussi notre affiche que vous pouvez probablement voir dans notre ville d'Angers en ce moment.
Voilà.
Bon, on rappelle quand même que le salon imaginaire est ouvert samedi.
Tout à fait.
De 10h à 19h. Et dimanche.
Oui, 19h. Non, non.
Et justement.
10h et 18h le dimanche.
Voilà. Ouais. Et c'est gratos. Bon, voilà. Le salon Kurnonski, vous savez où c'est.
C'est libre,
hein.
C'est complètement gratuit, c'est en plein centre de la ville d'Angers. Il faut venir nous voir. C'est impératif.
Et on aura aussi une partie bar. On peut aussi
sur place.
Il y aura aussi des petites friandises, surprises préparées avec imagination par l'asso.
Forcément, il y aura un petit service de restauration comme chaque année.
Ok, super. Sébastien, prêt pour ta chronique?
Oui, on passe une musique avant?
Non, on passe juste ton jingle, c'est parti.
Ah d'accord. Coucou. Donc, comme dit en début d'émission, je vais vous parler de Les Rôdeurs de la Nuit, donc de Graeme Davis, qui est paru en 1987, mais qui n'a connu qu'une édition, donc en langue française, toujours chez Gallimard Jeunesse. Alors, pour faire simple, je vous brosser rapidement le pitch. Donc, on a un aspirant voleur dans ce défi fantastique. Et donc, en tant qu'aspirant voleur, on désire ardemment être membre donc de la guilde, membre vraiment de plein droit de la guilde des voleurs. Mais attention, pour cela, il va falloir accomplir une épreuve, la haute épreuve. Et donc, c'est proposé par Annick Le Rouge, qui est le chef de la Guilde des voleurs. Et ça consiste, en fait, cette épreuve, on va dire, initiatique, pour l'aspirant voleur qu'on va jouer, à dérober un fabuleux joyau, l'œil du basilic. Rien que ça. Et il appartient à un marchand fort riche, qui est nommé, ce marchand, la braise. La braise, l'éclat du joyau. Donc déjà, alors ce que c'est le traducteur, il a mis un peu d'humour comme dans le bouquin. Déjà, la braise, ça m'a fait bien sourire.
Tu penses que ça y était pas dans le livre original ?
À voir. Ouais. En tout cas, il y a quand même des allusions humoristiques et tout. Et rien que la description de l'assemblée des voleurs qu'on va voir au tout début, elle est drôle. Il y a vraiment tous les mots pour décrire les voleurs et tout. Et on a l'impression... On les voit sur l'illustration du premier paragraphe avec des sourires. On a l'impression que c'est les associés de Robin des Bois, quoi.
D'accord. Et donc ça se passe dans un univers médiéval fantastique.
Oui. Alors on est aspirant voleur de la cité des voleurs, fameux port du sable noir. Okay. Donc et comme tu le sais, Ian Livingstone en a fait un ouvrage remarquable, La cité des voleurs, en 1983. Je vais en venir par la suite.
Donc ça se passe dans la même ville, en fait.
Dans la même D'accord. ville. Mmh. Il y a en tout une demi-douzaine de défis fantastiques où l'action se passe plus ou moins intégralement dans la cité des voleurs.
D'accord.
Donc ça montre que c'est une cité vraiment qui a été reprise par pas mal d'auteurs et qui est aussi appréciée par nombre de lecteurs. Mmh. Donc là, on a à dérober un joyau, mais avant tout, il va falloir localiser où se situe la cachette du joyau, l'œil du basilic. Et pour ce faire, on a une récolte d'indices à mener dans différents quartiers de la cité des voleurs. Alors naturellement, je ne vais pas vous divulguer à mes auditeurs où sont les indices. C'est une partie qui est très intéressante. Et moi, par contre, je vous invite à reprendre, là c'est la surprise que je mentionnais en début d'émission, de prendre les rôdeurs de la nuit. On vous l'avait à une vingtaine d'euros en occasion. Et la cité des voleurs, bon, qu'on trouve à tous les prix maintenant,
plus facile. Toujours,
paru chez Gallimard.
Il y a plusieurs
éditions. NV5, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce que j'ai découvert, en fait. Graeme Davis, Romain et Karine rend hommage, vraiment un vibrant hommage à Ian Livingstone. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, il y a des indices à chercher, hein. Mais il y a aussi des analogies qui sont plus ou moins frappantes dans les rôdeurs de la nuit. À la cité des voleurs. C'est-à-dire que, par exemple, dans les rôdeurs de la nuit, à un moment donné, on peut se rendre à la rue de l'horloge et on est attaqué par des nains. Et ces nains, ont la haine envers la guilde des voleurs. Donc, pour eux, on est une cible à abattre. Et en fait, ces fameux nains qu'on peut tuer, on les retrouve dans la cité des voleurs de Ian Livingstone, où ils nous tendent un guet-apens pour nous voler nos biens. Sauf que dans la cité des voleurs, on ne peut pas les tuer. D'où le fait qu'on les retrouve dans les rôdeurs de la nuit. Là, c'est vraiment un clin d'œil appuyé. On a un clin d'œil un peu plus discret. On a Madame Ishtar dans les rôdeurs de la nuit, une voyante qu'on peut aller voir dans le quartier Le Nœud Coulant. C'est une voyante extralucide. Et je me suis rendu compte que dans la cité des voleurs, donc c'est pas le même traducteur, je pense. Mmh. Enfin bref, elle s'appelle Madame VF. Étoile. Madame Étoile,
ah oui,
et Ishtar, donc c'est le symbole, son symbole c'est l'étoile. Et c'est vraiment pour moi le même personnage. Dans la cité des voleurs, on la voit sur la place du marché. Là, on la voit dans le quartier, on va dire le QG de la guilde des voleurs, pas loin de la place du marché, justement. Et elle nous propose une consultation pour 2 pièces d'or, à l'identique, dans la cité, les rôdeurs. Et pour nous délivrer, je te le donne dans le mille, un indice capital. Dans les deux cas. Et on a même encore une analogie qui est un peu plus, encore plus discrète. On va se rendre dans une taverne. On voit un tavernier chauve. Et en fait, on voit aussi des 3 bons hommes qui jouent à un jeu, le tranche-doigt.
Sympa.
Et dans la cité des voleurs, on rentre dans une taverne, le chien moucheté. Dans les rôdeurs, c'est la taverne du rat et du furet. Une taverne avec des noms d'animaux. Le tavernier, dans les deux cas, est chauve. Il a un crâne rébarbatif dans les rôdeurs de la nuit, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Bon, mais pour autant, il est quand même plutôt agréable, avec qui on va pouvoir quand même discuter. Bon, bref, et on voit ces joueurs, au nombre de 3, jouer au tranche-doigt, et dans les deux cas, on peut participer à leur jeu, et si on perd...
Un doigt.
Alors, peut-être pas un doigt, mais on leur doit 5 pièces d'or.
Ah bon, ça va.
Mais ils nous donnent, dans la cité des voleurs, un objet magique, et là, 10 pièces d'or. Voilà, c'est quelques analogies, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est très intéressant, très marrant, en fin de compte, de chercher les indices et en même temps les analogies entre Les Rôdeurs de la Nuit et La Cité des Voleurs, ce qui prouve, pour moi, que Graham Davis était vraiment un fan, jusqu'au bout des ongles, de La Cité des Voleurs de Ian Livingstone, pour vraiment nous glisser comme ça des clins d'œil, mais ouais, jusqu'à des clins d'œil, mais vraiment très discrets, qu'il faut vraiment... fouiner pour
ouais, ou bien se rappeler du premier, mais est-ce que c'est pas Ian Livingstone avait peut-être encore un avis à donner sur tout ce qui sortait dans les fighting fantasy en Angleterre à l'époque, non
Romain,
est-ce que c'est pas un peu normal en fait qu'il y ait...
Alors peut-être que je mettrai un bémol, c'est que j'ai écouté l'interview qui est très intéressante d'une heure de Rollist TV avec Marc et Matt, donc des amis, et Ian Livingstone nous a révélé qu'en fait il ne lisait jamais les auteurs voilà, de livres, jeux, livres dont vous êtes le héros, pour ne pas s'en inspirer pour ses propres écrits. Donc il n'est pas dit qu'il avait un avis sur... C'est plus peut-être l'éditeur, et là je vais en venir brièvement pour la deuxième partie de l'ouvrage. En fait, l'éditeur Pouffine à l'époque avait dit à Graham Davis, nous on veut des combats, donc mettez-nous un donjon. Donc ça a obligé Graham Davis à intégrer un donjon dans son bouquin, et à faire en sorte que la partie qui se déroule dans La Cité des Voleurs soit un peu plus courte qu'espérée. Donc il y aurait en fin de compte une version, on va dire, inédite, qui n'est jamais sortie à ce jour. Mais ce qui est bien dans ce donjon, même si c'est une commande de l'éditeur, c'est un donjon dans lequel, en fait, je me suis amusé aussi à voir aussi le poids des illustrations. Mmh. Où, par exemple, tu as une illustration... On voit un archer pointer son arc. C'est quand on arrive donc vers le lieu ou la cachette. C'est un souterrain en fait où il y a le joyau. Et cet archer pointe avec son arc bandé la direction de l'entrée. Donc l'illustration en fait, elle nous parle en fait. Elle nous indique, elle nous induit une solution. Ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire que l'illustrateur joue aussi comme l'auteur. Et par la fin, on a donc l'illustration du socle où il y a le fameux œil du basilic, et on a, si tu regardes bien, voilà, amis auditeurs, vous pouvez pas le voir, on voit des flamèches,
chez eux.
Des petites flamèches, et dans les solutions pour s'approprier le joyau, il dit, voulez-vous vous saisir du joyau? Il y a un rayon, mais moi je me suis dit, bah, si c'est pour me brûler, je le fais pas.
Surtout si tu avais déjà perdu des doigts aux tranches d'oie.
En plus, donc en fait, il y a des illustrations vraiment qui nous font jouer, jouquiner, ça j'aime beaucoup, et également dans le donjon, pour en finir, je ne veux pas tout dire, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à un moment donné, on tombe sur un premier cadavre de voleur dont le sang est encore frais. Et je me suis dit, mais en fait, pendant que j'étais à écouter Rannick le Rouge, il y avait d'autres voleurs, il y en a qui se sont dit, ah bah attends là, bingo, moi je veux ce joyau et je vais le ravir au nez à la barbe de l'aspirant voleur. Donc on voit un premier cadavre et après on voit d'autres cadavres. Ils sont pris dans une toile d'araignée, un autre il est sous une couche de moisissure un peu plus loin. Et c'est à partir de là, Romain, que la difficulté grandit dans le donjon. On a des ennemis de 10 en habileté. Mm-hmm. Et là, ça devient encore beaucoup plus difficile. Et Graham Davis nous fait un petit clin d'œil pour dire, là, vraiment, il y a du challenge. S'il y a des voleurs qui décèdent, il y en a un paquet. Eh bien là, mon copain, tu vas devoir vraiment t'armer de courage, t'armer de vaillance pour arriver au bout. Et pour vous dire, dans le donjon, pour finir, il y a souvent des tests acquis tout double. Des tests d'habileté, de chance et d'endurance. Et si on les rate...
Mort assurée.
Voilà, ad patas. Ouais,
ok.
Donc, pour dire que c'est un livre vraiment qui possède beaucoup de singularités et qui en fait un DF vraiment à part de la collection. Je voulais donc l'aborder sous des angles différents ce soir et vous donner l'envie de l'acheter. Et pourquoi pas également, si vous ne l'avez pas, La Cité des Voleurs, pour justement faire une lecture comparative.
Très bien. Et les illustrations sont de qui ?
Alors, les illustrations sont de John Sibick dans Les Rôdeurs de la Nuit. Et ça ferait plaisir à un de nos invités qu'on avait eu au salon, qui avait dessiné les mains dans le slasher dont vous êtes le héros, dont on
Xavier Desbarra.
Xavier Desbarra, parce qu'on a énormément d'illustrations avec des mains qui représentent les mains de notre voleur. Mais parfois, dans des situations qui sont pas vraiment favorables, la main qui s'électrifie, ou alors il monte une gouttière et la gouttière, elle s'arrache. Mmh. Et ça m'a fait rire. qu'on voit le voleur, mais également bah, qui peut malheureusement connaître quelques désagréments. Et je vais finir, Romain, par lancer un petit défi à Aymeric, dont on avait parlé pour les dessous de Bibala, ouais, la web-série et Twitcher. Donc, Ems, cher Ems, je sais que tu démarres les Rôdeurs de la Nuit en ce moment, qu'on a des talents, au nombre de 3 sur 7, des talents inavouables pour nous aider. Et comme tu t'en es rendu compte, on a certains objets qui peuvent compenser des talents qu'on n'a pas. Par exemple, un jeu de clés pour être crocheteur, une corde et un grappin pour pouvoir monter au mur. Eh bien, cher Ems, vas-tu trouver tous les objets qui pourraient te donner tous ces talents dans la première partie de la cité des voleurs, des rôdeurs de la nuit?
Tu pourrais nous dire combien il y en a?
Pour l'instant, il en a un.
Bon, ça va.
Voilà, voilà.
Et ton choix musical? Alors, 1983 aussi.
Voilà, donc c'est un artiste que j'aime beaucoup, un héros quelque part musical. Et je voulais faire un lien avec les ombres des rôdeurs de la nuit. Mmh. Mais là, ne restez pas dans les ombres avec Billy Idol.
Idol dans Imaginaire sur le 101.5, un extrait de son deuxième album, Rebel Yell, en 1983. On continue avec l'interview donc, des gens qu'on a rencontrés à Troglodyte et Sarcophage, donc site
magnifique.
Troglodytique à Douai-la-Fontaine, dans le cadre de leur expo. Enfin, une de leurs deux expos. Il y avait deux expos sur place. Et donc, on a rencontré donc le gérant. D'abord, l'interview est un peu en deux parties. Donc, d'abord, on aura le gérant
Oui, Didier Chabot.
Didier Chabot, et puis ensuite Jean-Luc Oudu, qu'on connaît par sa maison d'édition. Banquise et Comète, et puis Ronald Bousseau, illustrateur aussi, qu'on a reçu par exemple à l'Angers Geek Fest récemment, qui a fait les dessins de cette exposition. On s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5.
Didier Chabot, je m'occupe du site de troglodytes et sarcophages depuis 8 ans. Ce site a une particularité, c'est que c'est un site troglodytique et qui est le plus ancien et le plus diversifié de la région. La deuxième particularité, c'est qu'il a été découvert assez récemment, en 1989, par un archéologue qui s'appelle Michel Cousin, et qui va passer 6 ans à l'étudier. Notamment, pour commencer, il va le vider, puisqu'il était rempli de gravats, et tous ces gravats ont protégé l'espace souterrain et préservé les parties les plus anciennes. Alors avant sa découverte, alors il y avait une partie qui était utilisée par le propriétaire vigneron, mais l'immense majorité des caves, c'est-à-dire quasiment un hectare, était abandonnée depuis très très longtemps vraisemblablement. Et donc Michel Cousin va se rendre compte que les premiers occupants de ce lieu sont arrivés ici au cours du 5e siècle, même si on n'a pas de date précise. Donc on considère que sur quasiment 3 siècles, 5e, 6e, 7e, et précisément donc l'époque des Mérovingiens, eh bien des habitants du coin se sont lancés dans une production un peu atypique, puisqu'ils ont produit des sarcophages.
Donc on produisait des cercueils en pierre.
Exactement, des cercueils en pierre, totalement découpés, façonnés sous terre, dans la pierre locale, qui est la pierre de Falin. Et donc sarcophages qui sont ensuite extraits à la force des bras, bien sûr, à l'extérieur, pour ensuite être déplacés, pour être, on va dire, vendus, livrés vers des destinations plus lointaines. Et notamment, on peut rappeler le lien qui est fait à ce moment-là par l'archéologue entre cette découverte ici à Douai-la-Fontaine et Angers, puisque dans les années 70, on a découvert une nécropole mérovingienne, place du Ralliement, de laquelle on a sorti des sarcophages en phalin. Et bien sûr, le phalin étant la pierre locale de Douai-la-Fontaine, le lien est donc avéré entre ces deux espaces.
Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du site, on retrouve des structures un peu en escalier ?
Tout à fait. Cette forme d'escalier est le résultat de l'extraction de cette pierre sur des blocs qui font environ 2 mètres de longueur et qui correspondent en fait à la cuve de sarcophage.
Et vous avez une idée du nombre de sarcophages qui ont été produits sur le site ?
Alors, l'estimation a été faite à partir des volumes vides, et on considère que la production a pu atteindre 20 000 unités sur cette période donc de quasiment 3 siècles.
Alors, qu'est-ce qui se passe après les Mérovingiens ?
Alors, il y a une suite, effectivement. Michel Cousin se rend compte que le lieu, après avoir été abandonné, va être retrouvé, réutilisé, réaménagé par des populations qui vont venir se réfugier ici, et pour fuir notamment, dit-on, l'invasion viking. Les fameux vikings qui viennent du nord de l'Europe remontent la Loire jusqu'à Saumur. Et voilà, la solution la plus sage semble de se cacher. Et ici, c'est parfait, puisque invisible de l'extérieur, et qui plus est avec des systèmes de protection de type châtière, fermeture, avec peut-être des pièges, en tout cas des systèmes de protection efficaces.
Alors ensuite, dans l'histoire, le site a été occupé en fait quand les gens avaient besoin de se cacher, si je comprends bien.
Alors, en partie pour se cacher, jusqu'au moment où l'on considère que ce quartier d'aujourd'hui, qu'on appelle Douce, va se peupler. Et se peupler notamment avec l'arrivée d'un seigneur qui va construire ici sa seigneurie, son habitation seigneuriale, sur les hauteurs de ces cavités. Et pour la construire, eh bien, on va recreuser une nouvelle fois dans la pierre locale, donc dans une carrière, si vous voulez, qui va permettre d'ériger cette seigneurie. Là, on est vraisemblablement autour du XIIe siècle. Donc la trace de la seigneurie visible aujourd'hui, c'est la chapelle troglodytique qu'on trouve ici en contrebas. Le temps passe, ce lieu est abandonné et va être réutilisé au XVIIIe siècle, cette fois-ci pour extraire la pierre qui servira à bâtir les maisons du quartier, les maisons de qui nous entourent. Voilà, selon le principe assez commun à Douai-la-Fontaine, de ce qu'on appelle les caves cathédrales, qui sont le résultat d'une extraction assez spécifique à notre territoire. Voilà, puis pour terminer un petit peu l'usage de ce lieu dans un contexte un peu plus récent, on va voir l'arrivée d'un vigneron, qui propriétaire des lieux, bien sûr, qui va profiter de l'espace vide et à température plutôt constante pour stocker son vin.
Et donc aujourd'hui, c'est plus un site touristique qu'un lieu de fouilles archéologiques.
Alors en effet, les fouilles se sont arrêtées après le passage de Michel Cousin. Il n'y a pas eu d'opportunité de les relancer. Par contre, voilà, depuis 25 ans maintenant, hein, en fait le 25e anniversaire cette année, eh bien, le site est ouvert au public, donc pour des visites régulières tout au long de l'année, visites guidées notamment.
Donc visite de l'histoire et de géologie aussi, si on peut dire un peu.
Alors on parle un tout petit peu de géologie, parce qu'évidemment on ne peut pas parler des troglodytes sans parler de la nature de la pierre. Mais l'essentiel du contenu, effectivement, repose sur la découverte de l'histoire de ce lieu, et par extension de la ville.
Et aussi vous accueillez des expositions donc, et vous faites aussi des animations.
Tout à fait. L'idée, c'est de compléter les visites avec soit des animations ponctuelles de type chasse au trésor, escape game, soirée conte, soirée musicale. Et puis, effectivement, sur des périodes plus longues, on met en place des expositions thématiques, comme cette année, avec une exposition de photos, de portraits réalisés par Rémi Chazereau, qui a réalisé ces photos avec une technique spécifique qu'on appelle le cyanotype. Cette exposition est complétée par une exposition inspirée des royaumes de Tolkien et des légendes scandinaves, avec des décors qui sont installés et qui rappellent un peu la présence d'un peuple très présent dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le peuple des nains qui habite sous terre. Et ça tombe bien, nous aussi, nous habitons sous terre.
On va aller écouter Jean-Luc un petit peu présenter l'exposition. Les prochaines animations ?
Tout va arriver fin juin aux Journées européennes de l'archéologie, puis une journée des journées médiévales qui auront lieu donc les 5 et 6 juillet, voilà, pour mettre en évidence effectivement toute l'histoire médiévale de ce site.
Et puis vous terminez votre saison d'animation donc par l'École des sorciers, toujours.
Et habituellement, effectivement, au mois d'octobre, là, à l'occasion d'Halloween, nous ouvrons les portes aux enfants qui veulent participer à l'école des sorciers pour apprendre plein de tours de magie surprenants, voilà, dans un univers un peu magique, qui est donc celui des troglodytes.
Alors le site n'est pas ouvert toute l'année ?
Il n'est pas ouvert toute l'année, mais assez souvent, puisqu'on est calé principalement sur les vacances scolaires, toutes vacances scolaires, plus la grande période estivale qui va de début avril à fin septembre.
Ok. Et vous pouvez nous rappeler le site internet où on peut retrouver les renseignements ou vos réseaux ?
Tout à fait. Hein, tout est visible évidemment sur Facebook et Instagram et notamment notre site internet donc, qui est www.troglo-sarcophage.fr.
Ok. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Creuser dans la forêt, il y avait soi-disant du mithril. S'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains, des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Bienvenu, lui dire les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue brûlant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. La montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on n'aime pas cela.
restons bien à l'abri. Mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, resserre le cul de bière. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Et on aime pas se la surface. Nous sommes les nains sous la montagne. On voit le jour, on voit la nuit.
Alors, on est en compagnie de Jean-Luc Houdu et de Ronald Bousseau, devant le premier panneau, peut-être, de cette exposition « Le royaume sous la montagne, troglodytes et sarcophages ».
Tout à fait. L'idée de cette exposition, c'est de faire revivre le royaume sous la montagne, donc ce royaume qui est peuplé par les nains, tels que nous les connaissons aujourd'hui dans la fantaisie. Et donc, l'idée, c'était de repartir sur les traces de ces nains, comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont et comment ils sont, à travers une exposition qui se veut un peu ludique. Donc, on a imaginé 7 clans qui représentent chacun une caractéristique des nains qu'on retrouve depuis leur origine mythologique jusqu'à aujourd'hui.
C'était venu comment, cette idée ?
On en discutait avec Didier, puisque moi je m'occupe aussi de la partie animation du site Troglodytes et Sarcophages. Et donc on organise notamment des chasses au trésor et un escape game très réputé. Et donc, l'idée nous est venue de faire quelque chose, d'aller un petit peu plus loin cette année, d'autant plus que nous fêtons aussi les 25 ans du site. Donc de la découverte archéologique qui est à l'origine du site.
On se retrouve devant le panneau du clan de l'Orge.
Oui, tout à fait. Donc dans les 7 clans que nous avons imaginés, il y a d'abord le clan du feu, donc ce sont les forgerons, puisque c'est une caractéristique commune à peu près tous les nains dans toutes les traditions. Nous avons donc le clan du blé, qui est chargé de l'approvisionnement en légumes, en viande, etc., et en farine, évidemment, du royaume sous la montagne, puisque les nains ne produisent pas ce type de produit. Donc, ils ont des échanges commerciaux fructueux, avec les humains à la surface. Donc, ça, c'est plutôt le clan du blé qui s'en charge. Donc, le clan de l'orge, lui, est chargé de brasser cette excellente bière qui fait la réputation des auberges naines à travers toutes les traditions qu'on a évoquées ici avec un petit décor d'auberge. Ensuite, on a le clan du fer. Donc, ça, ce sont les gardiens du royaume, puisque les nains sont aussi de terribles guerriers qui sont bien équipés, puisque leurs armes sont réputées, ainsi que leur cotte de maille. Et puis, ils ont fort à faire avec certains autres habitants des souterrains, notamment les fameux gobelins, qui eux aussi remontent à des traditions très, 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 très anciennes, hein, puisqu'on en retrouve dans beaucoup de contes, jusqu'en Normandie, hein, où les gobelins font partie du folklore normand. Ensuite, nous avons le clan du livre, puisque qui dit royaume sous la montagne dit culture, puisque les nains ont une véritable culture. Ça, c'est plutôt un apport, des premiers auteurs de fantasy, notamment. Alors, on va citer évidemment Tolkien, mais il y a aussi C.S. Lewis qui était un de ses amis. D'ailleurs, un des panneaux de l'exposition évoque les Inklings. Donc, je vous laisserai creuser le sujet. Donc, le clan du livre, pour deux raisons. D'abord, pour garder la mémoire du royaume, évidemment, hein, ses archives, mais aussi pour stocker les secrets de fabrication des forgerons, notamment des orfèvres, mais aussi la magie, puisque la plupart des armes forgées par les nains dans toutes les traditions sont magiques. Donc, on en retrouve dans certains contes médiévaux, comme Huon de Bordeaux, par exemple, puisque le héros Huon se fait aider par Oberon, qui est le roi des nains sous la montagne. Hein. C'est un personnage qu'on retrouve dans beaucoup de traditions germaniques sous le nom d'Alberich aussi. Et donc, Oberon, il a quelques armes assez fascinantes, notamment un home et une cotte de maille qui s'adaptent automatiquement à la taille de tous ceux ou toutes celles qu'il apporte. Donc, c'est pas mal du tout. Et puis, dans la mythologie nordique, ce sont les nains qui ont forgé la plupart des attributs des dieux. donc la lance d'Odin notamment, le marteau de Thor, mais aussi le collier de Freya qui lui aussi a des facultés magiques assez, assez impressionnantes puisqu'il est capable, d'abord il est capable quand Freya l'apporte, personne ne peut résister à son charme, ce qui peut avoir un avantage, et ensuite il est capable de donner la victoire à n'importe quelle armée dans une bataille qu'aura choisie la déesse. Surtout que les dieux nordiques aiment bien se mêler de ce genre de querelles humaines, parfois jusqu'à les allumer et les attiser pour le plaisir, pour le sport. Et le dernier, donc on a évoqué le clan de la pierre également. Le clan de la pierre, donc c'est le clan qui depuis des générations est chargé de creuser le royaume sous la montagne. Donc non seulement les mines, mais aussi les palais, tous les couloirs, donc l'auberge dont on a parlé tout à l'heure, puisque le royaume est en constante évolution. On creuse de plus en plus profond, on va de plus en plus loin pour chercher les matériaux qui vont permettre la richesse du royaume et les échanges avec les peuples extérieurs. Et puis aussi pour raffiner le confort des nains qui vivent sous la montagne, mais qui, comme les hobbits, ne vivent pas dans des trous ou des cavernes telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui. Le dernier clan, c'est le clan du Drac. Puisque les nains et les dragons, c'est une grande histoire. On peut les imaginer comme des antagonistes, puisque les dragons, comme les nains, raffolent des trésors et vivent sous terre. Mais dans certaines traditions, les nains sont parvenus à passer un accord avec les dragons ou à les domestiquer pour qu'ils soient les farouches gardiens de leurs trésors. Donc c'est ce qu'on évoque avec notamment un très beau squelette de dragon qui veille sur les trésors du royaume sous la montagne.
Oui, d'ailleurs, je suis curieux de savoir comment tu l'as trouvé, ce squelette.
c'est une découverte archéologique assez récente. On est en train de se promener dans les couloirs et puis on a vu un os qui dépassait et puis un autre. Et on a été capable de reconstituer donc le squelette authentique d'un dragon. D'un dragon assez respectable, puisqu'il fait 4 mètres de long.
Ronald, de quelques mots, comment t'es arrivé sur le projet ?
Jean-Luc m'a contacté, parce qu'on avait déjà collaboré, du coup j'avais déjà fait quelques couvertures pour les éditions Banquise et Comète, et il connaissait mon style de dessin, donc il m'a contacté pour me demander de faire les illustrations pour l'exposition.
Ok, quelques sources d'inspiration qui sortent d'où tes nains ?
Évidemment, voilà, j'ai l'iconographie de Tolkien, un peu comme tout le monde.
Laquelle peut-être, parce qu'il y en a eu plusieurs si on veut.
J'étais biberonné sur le tas parce que je suis un grand enfant au film de Peter Jackson.
D'accord.
Voilà. Après, j'ai pas que, parce que j'ai quand même pas mal regardé aussi dans les d'autres illustrations qui venaient d'avant du monde de l'heroic fantasy, des illustrations de l'heroic fantasy en général. J'ai pas de nom spécifiquement à donner.
D'accord.
Mais je me suis laissé un peu porter par l'imagination. J'ai pas voulu faire vraiment l'armure. Par exemple, pour les guerriers nains, par exemple, je me suis pas laissé porter uniquement par les armures que pouvaient porter Gimli et compagnie. Je me suis même laissé porter au monde médiéval de manière générale. Par exemple, on voit deux soldats nains qui gardent une porte. Il y en a un qui mange une pomme. Ça, c'est un petit hommage à Sacré Graal des Ponty Python, par exemple. On voit, il y a Lancelot qui vient à l'assaut d'un château. Il trucide tout le monde pendant un mariage. Et ceux qui gardent la porte, c'est deux gardiens, dont un qui mange une pomme. Voilà.
Parmi les sept clans de nains qu'on trouve dans l'expo, c'est lequel lequel tu as préféré dessiner ?
C'est compliqué. Alors j'ai beaucoup aimé le clan de l'orge. Oui. On voit toute une tribu de nains en fait en train de boire des coups en fait autour d'une table. Alors là, j'ai essayé de faire en sorte que il y a rien de plus facile de tomber dans de tomber dans le fait de que tous les nains se ressemblent les uns avec les autres. Là, j'ai essayé de faire en sorte que chaque nain ait une propre personnalité, un propre caractère. Il y en a un qui va être plus qui va tenir plus ou moins bien l'alcool. Il y en a un qui va être plus affirmé, d'autres plus timide. Voilà. Donc il y a différentes caractéristiques physiques que j'ai essayé de rendre visibles chez ces nains. Voilà.
Entre hommes et femmes aussi, nains.
J'ai mis des naines, et finalement, voilà, je voulais pas que ce soit un monde exclusivement masculin. Donc par exemple, dans le clan du Drac, c'est une dragonnière qui élève le dragon. Dans la boulangerie, dans le clan du Lorge, on voit une boulangère qui est à l'œuvre. Dans la taverne, on voit également des naines qui sont là, et pas que pour faire de la figuration. Voilà.
Mm-hmm. Et merci à vous deux. Alors, on peut voir cette expo
jusqu'en septembre. La troglodyte sarcophage.
Super. Et merci beaucoup. Et alors, on a prévu dans le cadre de l'expo, on a prévu une soirée jeu de rôle le vendredi 5 juillet. Est-ce qu'il y aura d'autres animations autour du royaume sous la montagne ?
Oui, il y aura probablement des visites nocturnes, hein, le mardi soir, à partir de 18h30, 19h, pour être dans l'ambiance, ou pendant une petite heure, je partagerai ma passion pour les nains avec les visiteurs. Donc, ce sera sur réservation. On va publier ça assez rapidement maintenant, avec un vrai calendrier. Et puis, effectivement, il y aura la soirée jeu de rôle. Donc, les joueurs sont conviés à venir jouer à l'intérieur du royaume sous la montagne, donc dans les salles souterraines, où nous avons reconstitué les décors, ce qui quand même apportera, à mon avis, un petit supplément de frisson à des jeux de rôle qui seront déjà extrêmement intéressants, puisqu'il y aura des vrais maîtres du jeu aguerris au service des joueurs.
Super. Et ben, à bientôt. Merci.
Merci.
À bientôt.
Tom, bon bah dis l'homme. Tous les gosses du quartier l'appellent Tom, bon bah dis l'homme. Son carrosse est tout rouillé et ses bottes sont trouées. Y'a des asticots dans le tuyau de son chilom, au pauvre Tom. Tom, Tom, bon bah dis l'homme, au pauvre Tom. Tom, Tom, bon bah dis l'homme. Tom, bon bah dis l'homme leur dit, je m'en fous. Tom, bon bah dis l'homme leur dit, pensez-vous. Tant que le soleil et la pluie enfanteront des arcs-en-ciel, tant que les elfes sauteront sur mes genoux. Ouh, Tom Bombadil'homme m'a dit, je m'en fous.
Mais qu'est-ce que je m'en fous?
Le drôle d'homme que l'on nomme Tom Bombadil'homme n'a pas fini d'entendre les passants lui crier. Le loup a croqué ta femme, y'a ton château qui est en flamme. T'iras en enfer si t'avales tes 3 litres de rhum. Oh pauvre Tom, 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 bon bah dis l'homme. Oh pauvre Tom, 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 bon bah dis l'homme. Tom, bon bah dis l'homme leur dit, je m'en fous. Tom, bon bah dis l'homme leur dit, pensez-vous. Tant que le diable chaque soir jouera du luth dans mon placard, tant que les fées viendront rêver sous mon chapeau.
Sous mon chapeau.
Tom Bombadil'homme m'a dit, il fera beau.
Mais qu'est-ce qui fait beau?
Attention à la marche. Un jour le drôle d'homme qu'on nomme Tom Bombadil'homme m'a dit, me parlant des hommes, je les trouve bizarres. Comme un poulet dans le noir tenant une prise de courant, qui cherche en tâtonnant à se brancher quelque part. Aux pauvres hommes. Comme un poulet dans le noir. Aux pauvres hommes. Comme un poulet dans le noir. Tom Bombadil'homme m'a dit, je m'en fous. Tom Bombadil'homme m'a dit, lâchez tout. S'ils n'en font jamais qu'à leur tête, ils feront sauter la planète. Moi je retourne chez les lutins et les fous. Chez les fous. Tom Bombadil'homme m'a dit, venez-vous.
Venez-vous.
Allô, allô. Tom Bombadil'homme, c'était le choix musical de Ronald de Bousseau, donc l'illustrateur de cette expo Le Royaume sous la montagne. à Troglodyte et Sarcophage Rhône-Alpes qu'on retrouvera ce week-end.
Tout à fait.
Jean-Luc Oudu aussi, qui sera probablement derrière son stand, très joli Banquise stand, comme
Comètes,
d'habitude, de Banquise et
oui.
Comètes. Il y avait aussi un morceau, ah ouais, alors ce morceau, il était sur l'album Tombé du ciel de Jacques Higelin en 88. Le morceau que vous avez entendu aussi avant dans l'interview, c'était Ma Goyonde avec le Naël Band pour une reprise de leur tube, Mon ancêtre Gurdil, version métal en 2017. On a pas mal de trucs à annoncer dans l'agenda. On commence par quoi? Samedi, on va parler du Salon Imaginaire à la fin. Samedi, ce sera aussi la Nuit des Musées. Et je voulais signaler que ce sera au Musée Jean Lursa. Il y a une expo avec une installation visuelle et sonore par la Houle, qu'on a déjà eu, on peut dire un peu groupe, one man band de
oui.
Shoegaze Angevin.
Ouais, je l'avais interviewé. Ouais.
Ce sera donc samedi soir entre 19h et minuit, installation visuelle expérimentale et performance sonore, un peu dans le cadre du festival Lévitation, qui arrive dans quelques semaines à Angers. Je voulais aussi signaler que mes copains de Les Échos d'Arkham, donc Kevin, qu'on a connu à la chaumière du bout des rêves il y a quelques temps, maintenant ils, ce sont des podcasteurs qui se consacrent à l'appel de Cthulhu et ils font leur premier Twitch dimanche soir à 20h. Voilà, c'est une soirée un peu à, comment on dit, une soirée stream à choix multiple, quelque chose comme ça.
Et c'est jusqu'à minuit.
Ouais.
Visiblement.
Ça dépend si on meurt avant super vite dans ce scénario seul perdu dans les flammes, je crois. Moi, je suis mort assez vite quand je l'ai fait. Et puis, Salon Imaginaire ce week-end. Donc, samedi 10h, 19h, dimanche 10h, 18h, au Salon Kurnonski, dans le centre-ville d'Angers. Karine, est-ce que tu peux nous résumer ça en 1 minute 15?
Table ronde, exposition, rencontre, dédicace et atelier d'écriture sur inscription
auprès d'Imaginaire.
Auprès d'Imaginaire, oui, et ça se passe à la médiathèque, tout ça.
Donc, cinquantaine... d'auteurs, auteuristes, illustrateurs.
Oui, soixantaine ouais. d'exposants, d'intervenants.
Il y aura aussi effectivement une bonne dizaine de maisons d'édition.
Voilà,
qui seront
exactement.
Là.
Tout à
Donc
fait.
Donc venez, c'est gratos.
Venez. N'hésitez pas.
Et avec la participation là, amicale de Jean-Luc, on a eu une idée de faire des interviews flash de 2-3 minutes. Donc, pour avoir les avis de vous, public, qui viendrez pour savoir ce que vous pensez des tables rondes, également des expos, d'illustrations et tout, puisqu'il y en aura une normalement, Karine, dans le hall, c'est ça?
Ouais, ce sera consacré à notre anthologie. Donc, si vous voulez réentendre votre voix dans cette même émission, dans 2 semaines, ben, passez nous faire coucou. Sébastien et Jean-Luc
avec plaisir.
Feront une petite interview de vous.
Voilà. Diffusée sur Insta. En direct.
Et on se retrouve dans cette antenne dans 2 semaines. Ciao.
Salut.
www.radio-g.fr. Thank you.